Vous écoutez, on lit pour vous.
Cat Lady. Comment le terme est-il devenu une insulte? Un texte d'Audrey Boutin, paru le 31 juillet 2024 dans Urbania. Enfant, perché sur le sofa gris du salon de mes parents, j'ai aperçu une femme qui a pour toujours changé ma vision de ce que je voulais être plus tard. Dotée d'une élégance qui n'avait d'égal que son indépendance, cette femme est devenue pour moi un modèle de réussite, de fierté et de tout ce que j'aspirais à devenir en tant que petite femme encore en gestation. Mais qui était-elle? Vous demandez-vous, sans doute en haleine au bord de votre chaise. Cette carré girl boss, c'était Madame Adélaïde de Bonne Famille du film Les Aristochats, de loin mon favori de la bibliothèque Disney. Baissez-moi ces sourcils, je vous prie, et prenez un moment pour considérer ce personnage cruellement underrated de l'univers des films que les parents mettent pour avoir 2 secondes de paix. Madame de Bonne Famille est une millionnaire excentrique qui vit sa carré best life dans un appartement parisien au tout début du 20e siècle, entourée de ses 4 chats, dont les noms évoquent des artistes de la Belle Époque. Chaque jour, elle enfile ses plus belles robes, supervise les leçons de piano de ses rejetons à 4 pattes, et traîne dans des cafés peuplés d'artistes et autres personnes fascinantes. Par contre, si j'ai longtemps pensé qu'habiter un appartement somptueux avec des êtres qui ne me textent pas à longueur de journée pour me demander ce qu'il y a pour souper, c'était le summum de réussite, j'ai été forcée de constater que l'appellation « Cat Lady » en était plutôt une qui évoquait le ridicule, le mépris et la condescendance. De Madame Abernathy, qui balance des chats en hurlant dans les Simpsons, à une attaque de 2021 ayant récemment refait surface de J.D. Vance à l'endroit de Kamala Harris, une adéquation semble avoir été faite entre le sentiment d'accomplissement des femmes et les êtres avec qui elles partagent leur vie. Mais d'où provient cette, et vous me pardonnerez l'expression, idée de marde? Est-ce un complot fomenté par le lobby des propriétaires de chiens, ou pire, des propriétaires d'estis de perroquets? Pourquoi? Eh bien, figurez-vous donc que ça remonte à beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Décortiquons donc ensemble l'origine de l'insulte de l'heure proférée à l'endroit de la peut-être première femme à devenir présidente des États-Unis. De déesse à suppôt de Satan. Si, comme moi, vous étiez obsédé avec l'Égypte antique, quand vous étiez enfant? Sinon, vous faisiez quoi, au juste? Vous savez qu'à cette époque, les chats étaient vénérés, car considérés comme étant les représentants de la déesse Bastet, arborant une tête, vous l'aurez deviné, de chat. C'est d'ailleurs à cette association que l'on devrait une certaine tendance à considérer les chats comme étant un symbole lié à la féminité, puisque Bastet était la déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants. Un non-sens, donc, lorsqu'on considère qu'aujourd'hui, les chats seraient plutôt l'apanage des femmes sans enfants. La réputation des chats aurait toutefois reçu un coup de griffe en pleine face pendant l'époque médiévale, avec le début des accusations de sorcellerie qui fusèrent de toutes parts afin de viser la majorité du temps, des femmes célibataires et sans enfants. Parmi elles, Agnes Waterhouse, considérée comme étant la première femme à avoir été exécutée pour sorcellerie en 1566 en Angleterre, aurait confessé avoir entraîné son chat, nommé Satan, selon certaines sources, aussi fiable que votre ami qui vous jure qu'il vous remboursera sa part du Uber, à tuer du bétail et des humains. Suite à la flambée, c'est voulu, de procès pour sorcellerie qui a ébranlé le 16e siècle, tant en Europe qu'en Amérique, on se transporte au 18e siècle où la spinster, une femme célibataire et sans enfant, devient un archétype qui marque le paysage littéraire d'auteurs tels que Charles Dickens. Étonnamment, la spinster fait également une apparition chez Jane Austen, pourtant elle-même une femme seule qui préférait la compagnie de ses encriers à celle des hommes, dont elle faisait des portraits mordants qui nous font crier « Yo !» en claquant des doigts à la lecture de ses œuvres. Quoi? Vous ne faites pas ça? Sans nécessairement être l'heureuse propriétaire d'un chat, la spinster nous intéresse, car les traits qu'on y associe ne sont pas sans rappeler ceux qu'on utilise maintenant pour décrire les femmes qui préfèrent faire de l'excavation dans un bac à litière plutôt que de changer des couches. Ainsi, sous la plume de Dickens, Austen et autres personnes qui auraient fait la fortune des compagnies de crème solaire, la spinster est décrite comme étant une femme cruelle, laide, à la limite profondément emmerdante et parasitant la fortune de sa famille. Et même lorsqu'on leur montre, ne serait-ce qu'un monceau de compassion, on cherche à communiquer au lecteur que ce sont des femmes qu'il faut à tout prix maintenir à l'écart de la société. Oui, mais c'est quoi le rapport avec les chats? Vous demandez-vous sans doute, excédé par ma volonté que mon bac en littérature serve enfin à quelque chose. Eh bien, c'est à la fin du 19e et au début du 20e siècle que l'union entre les chats et les femmes, faisant de l'excès de zèle, en termes d'indépendance et de désir d'émancipation, sera officialisée grâce au mouvement des suffragettes. Dans un premier temps, le chat était utilisé comme figure de remplacement pour ces maudites femmes gossantes militant pour le droit de voter. Dans des caricatures publiées dans divers médias anglais et américains, on pouvait voir des chats miauler pour exiger le droit de vote, comparant ainsi la voix des femmes au miaulement strident du félin. Comme quoi ça ne date aussi pas d'hier qu'on critique les femmes sur leur voix. Vous écoutez? Cat Lady. Comment le terme est-il devenu une insulte? Un texte d'Audrey Boutin, paru le 31 juillet 2024 dans Urbania. Loin de se laisser abattre, les suffragettes Nell Richardson et Alice Burke ont plutôt décidé de se réapproprier l'insulte en adoptant Saxon, un petit chat noir qui deviendra éventuellement la mascotte non officielle du mouvement. Un geste qui vaudra toutefois aux militantes de nouvelles insultes, prétendant qu'elles se préoccupaient plus du bien-être d'un chat que de celui de leur famille ou de leurs enfants, la majorité des suffragettes étant des femmes mariées et mères de famille. De nos jours, la « cat lady » se limite souvent à un punchline à la télé et au cinéma. Les exemples abondent. Angela dans « The Office », Little Eddie dans le documentaire « Grey Gardens ». La « cat lady » est représentée comme une femme dénuée d'humour, d'entre-gens et aux habiletés sociales extrêmement limitées. Et puisque le chat, contrairement au chien, qui ne peut pas être laissé seul 5 minutes sans parvenir à s'étouffer avec les batteries de la télécommande, est associé au confort du domicile, la Cat Lady est une figure recluse qui refuse tout contact avec l'extérieur, surtout lorsque des hommes se trouvent dans cet extérieur. La menace de l'indépendance. Dans son livre intitulé « Catwoman », l'auteur Alice Madicott déclare « Il y a quelque chose dans l'indépendance des chats, quelque chose que j'adore chez eux, qui se reflète dans les soupçons que l'on éprouve à l'égard des femmes indépendantes. » En tant que propriétaire de chats, cette ligne résonne profondément en moi. Personnellement, j'ai toujours vu d'un mauvais œil les gens qui détestent les chats. Ils ne sont pas fidèles. Ils n'obéissent pas. Ils sont trop indépendants, faisant souvent partie des rengaines des gens qui boudent ces créatures à quatre pattes, leur préférant souvent un chien, soit cet être qui a besoin de votre supervision pour se soulager et ne pas s'étouffer avec un bout de votre sofa. Mais pourquoi cela vous atteint autant qu'un animal ne vous obéisse pas au doigt et à l'œil et soit capable de vivre sa propre vie avec ou sans vous? Si on m'accuse souvent d'overthink, ma position dans le débat chat versus chien, ces commentaires négatifs formulés à l'endroit des chats ne sont pas sans rappeler la guerre que livrent présentement certains politiciens et autres sbires de l'extrême droite aux femmes qui osent se déroger à ce qu'ils perçoivent comme une obligation pour elles d'avoir des enfants et de se marier. Des femmes qui choisissent une vie qu'ils considèrent comme narcissique, égoïste et dénuée de sens. Ainsi, quand J.D. Vance accuse Kamala Harris d'être une cat lady misérable en raison de ses choix de vie, nonobstant que Harris est mariée et belle-mère de 2 adolescents, il est difficile de ne pas percevoir dans cette attaque un écho de la servante écarlate et un désir de retourner au modèle de la famille nucléaire avec une femme silencieuse, obéissante, qui reste à la maison et s'occupe des enfants. Bon chien, donne la patte. Un modèle menacé par la Cat Lady. Cette succube qui préfère concentrer son affection et son instinct maternel sur une petite créature moustachue. L'attaque reflète également cette angoisse qui paralyse présentement les mouvements conservateurs face à la chute du taux de naissance. Une chute qui ne s'expliquerait non pas par l'inflation, l'intelligence artificielle qui nous vole nos jobs et le mercure qui avoisine les températures du trou de cul de Satan, mais bien par ces femmes qui se ruent à la SPCA pour adopter des chats plutôt que de faire des enfants. Fière féline. Mais pourquoi, quand on pense à la Cat Lady, on pense forcément à une dame qui est passée à côté de tous les plaisirs que la vie a à offrir? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas plutôt à la fougueuse Ellen Ripley de la série Alien? À la sensuelle Selina Kyle, alias Catwoman? À l'excentrique Holly Golightly dans Breakfast at Tiffany's? Ou même à Taylor Swift, qui, j'en suis sûr, n'a présentement rien à envier à quiconque sur Terre? Parce que, peu importe à quel point Hollywood se targue d'être progressiste, le stéréotype perdure et contribue à la prévalence d'une idéologie patriarcale qui dénigre les femmes qui font des choix de vie atypiques. Plutôt que de célébrer l'indépendance, on moque la marginalité, afin de renforcer le statu quo. Alors, chères cat ladies de ce monde, soyons fiers d'avoir dérogé aux normes qu'on tente de nous imposer. Parce que le fait que nous ayons préféré les chats aux enfants ne signifie absolument rien au sujet de nos caractères. En choisissant de prendre soin de petits êtres velus, nous démontrons que nous sommes aimantes, responsables et que nous savons rendre l'amour que l'on nous donne. Ne laissons pas la misogynie mettre un frein à l'amour que nous portons pour nos compagnons à quatre pattes. Et puisque vous insistez, je vous laisse sur la photo de ma carte de membre du Club des Cat Ladies, fière et assumée. Et parce que je suis sûre que ça vous intéresse, elle s'appelle Lady Colette Fluff Bottom. C'était Cat Lady. Comment le terme est-il devenu une insulte? Un texte d'Audrey Boutin, paru le 31 juillet 2024 dans Urbania.
Douceur de la déconnexion. Un texte de Salomé Corbeau, paru le 31 juillet 2024 dans Le Devoir. Je reviens tout juste d'une semaine de camping dans le fin fond d'une réserve faunique du Québec. Loin de moi l'idée de vous vendre les joies de se coucher dans une tente légèrement humide avec encore un peu de sable entre les orteils. Je ne tenterai pas non plus de vous convaincre que cuisiner tous vos repas sur la braise ou sur un minuscule brûleur, sous une bâche, pendant une grosse averse, constitue l'expérience par excellence. Le camping, ce n'est pas pour tout le monde, et je le conçois aisément. En revanche, je pourrais vous parler de la splendeur de la nature sauvage. S'endormir au seul son du chant du plongeon huard, loin des sirènes d'urgence des grandes villes ou du grondement incessant des routes, plonger dans l'eau fraîche et claire de l'un de notre demi-million de lacs, humer le mélange d'humus et de conifères quand on entre dans un sentier en pleine forêt, voir la lune se lever à travers les milliers d'étoiles sans aucune pollution lumineuse. Quelle chance infinie nous avons de vivre dans un pays où la nature tient encore une place prédominante. Nous serions bien fous de ne pas en profiter. Mais ce dont je voudrais vraiment vous entretenir, ce sont des bienfaits extraordinaires de la déconnexion numérique. Notre petite tribu s'évade chaque année en nature. Au plus fort de notre escapade, notre joyeuse ribambelle compte une vingtaine d'enfants et à peu près autant d'adultes. Nos journées se composent essentiellement de randonnées, de volley-ball de plage, de baignades, de traversées du lac en planche à pagaie, de spike-ball, de dessins à l'aquarelle et jeux de société, le tout pratiqué au gré des désirs de chacun et selon les aléas de la météo. À aucun moment nous n'entendons un enfant ou un adolescent réclamer une tablette, un téléphone ou toute autre forme d'écran. Parfois, lorsqu'un gamin est fatigué, on ne sait plus trop à quelle activité se vouer, il s'écrase dans un des hamacs suspendus entre les arbres, avec ou sans livre. Les adultes les plus prévoyants, lire ici tous sauf moi, ont chargé leur téléphone simplement pour le plaisir de prendre des photos ou pour avoir l'heure. Pendant une conversation où on cherche le nom d'une ville, d'un personnage ou l'ingrédient d'une recette, on a le réflexe de se tourner vers un moteur de recherche. Mais sans réseau disponible, on comprend vite qu'il nous faudra attendre que la mémoire nous revienne ou bien vivre avec notre trou de mémoire collectif. Plus sérieusement, le fait de ne pas pouvoir lire nos courriels, de ne pas être au courant de toutes les mauvaises nouvelles sur la planète, de ne pas se perdre dans une spirale de vidéos insipides, ou encore de ne pas pouvoir comparer nos photos de vacances avec celles de toutes nos connaissances, c'est laisser de l'espace pour la contemplation, les réflexions plus profondes et une certaine reconnexion avec les éléments. On se surprend à pouvoir regarder la voûte céleste aussi longtemps qu'on le ferait pour engloutir les épisodes d'une série en rafale. Faire l'étoile, seul, au milieu du lac, avec un ballon de nage, histoire d'en profiter en toute sécurité, reste le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire le vide, pour me laisser bercer loin de mon renouvellement d'hypothèque et des variations du taux directeur. Je ferme les yeux, je laisse mon corps se détendre et je flotte. Tout simplement. C'est une des rares fois de l'année où je peux vraiment dire que j'ai atteint un état méditatif. Bien entendu, on peut faire ça chaque jour. Il suffirait d'éteindre notre téléphone intelligent assis en tailleur dans le salon. Mais je pense que c'est le fait de pouvoir le faire plusieurs jours qui nous détoxifie plus profondément. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous devenus plus ou moins dépendants aux écrans. Combien d'entre vous sont en train de lire cette chronique sur un appareil numérique? Je ne suis pas contre ces technologies qui, à bien des égards, simplifient notre vie. Seulement, je crois que se déconnecter volontairement pendant quelques jours a des effets bénéfiques sur notre morale, notre cou et nos yeux. Cela étant dit, nous sommes entre amis pendant ce séjour dans le bois et ainsi je ne manque donc pas de liens sociaux. On discute, on échange, on rit. C'est très loin d'une retraite en silence, surtout avec une vingtaine d'enfants qui ont faim, soif, ou cherchent le ballon de volée ou leur veste de sauvetage. J'imagine que pour des gens plus seuls, la déconnexion numérique n'est pas toujours bénéfique puisque cela coupe toute forme d'interaction et augmente l'isolement. Mais que ce soit en camping, en chalet ou grâce à toute autre forme d'évasion, l'idée demeure principalement de nourrir son esprit avec autre chose que le contenu des réseaux sociaux. Que ce soit pour observer les divers stades de développement des têtards et des couchers de soleil, ou pour cueillir du thé du Labrador, prendre une pause en nature devrait être accessible à tous. Ça n'est pourtant pas le cas. Qu'on pense aux gens à faible revenu ou aux personnes en situation de handicap pour qui se rendre en nature n'est pas si facile, voire impossible dans certains cas. Je trouve injuste qu'un simple bain de forêt soit un luxe dans une société aussi développée que la nôtre. Je ne vous cacherai pas que je rentre souvent épuisé de cette semaine d'aventure. Défaire le campement, puis rouler 3 heures jusqu'à la ville et ensuite enchaîner 12 brassées de linge qui sent le feu, c'est fatigant. Mais les enfants et nous sommes ressourcés, vivifiés. Nous revenons des souvenirs pleins la tête, le cœur plus léger et la boîte de courriel pleine à craquer. Je reprends alors le cours de ma vie avec le sourire, quelques piqûres et surtout plus d'énergie et beaucoup de gratitude. C'était « Douceur de la déconnexion », un texte de Salomé Corbeau, paru le 31 juillet 2024 dans Le Devoir.
Les îlots de chaleur de l'énergie solaire, un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juillet 2024 dans La Presse. François Tauvette, un lecteur, demande: est-ce que les champs remplis de panneaux solaires créent des îlots de chaleur qui auraient des effets négatifs sur l'environnement? Oui, ils créent des îlots de chaleur, mais cet effet se dissipe sur moins de 30 mètres. Et il n'y a pas d'augmentation de température si on laisse des plantes sous les panneaux. Nous avons tiré la question au clair à la demande d'un conseil municipal en Arizona, explique le biologiste Greg Baron Gafford de l'Université de l'Arizona, qui est l'auteur principal d'une étude publiée en 2016 sur cette question dans la revue Scientific Reports. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est absolument pas un problème. Un nouveau type d'agriculture, l'agrovoltaïque, est même né de cette préoccupation. Quand on enlève la végétation sous les panneaux solaires, la température y augmente de 1 à 3 degrés Celsius. L'effet se dissipe après une distance de 30 mètres des panneaux solaires. Si on laisse de la végétation sous les panneaux solaires, toutefois, la transpiration des plantes, soit l'évaporation de l'eau par leurs feuilles, réduit la température de plusieurs degrés. Ça contrebalance complètement l'augmentation de température sous les panneaux, dit M. Baron Gafford. La transpiration sert à rafraîchir les plantes, à stimuler la circulation de la sève et à émettre des hormones de communication. L'enquête a été menée après qu'un habitant d'une petite ville de l'Arizona se fût inquiété au conseil municipal qu'un parc solaire prévu près de chez lui allait faire grimper le mercure dans le voisinage. Les chercheurs de l'Université de l'Arizona ont été chargés de tirer la question au clair. À l'époque, il n'y avait pas d'études rigoureuses sur le terrain et les modèles physiques prédisaient soit des augmentations, soit des diminutions. Un nouveau type de culture, l'agrovoltaïque. En poussant son enquête plus loin, M. Baron Gafford s'est rendu compte que les légumes transpiraient encore plus que le gazon. Parfois, ils refroidissent la température sous les panneaux de 10 degrés Celsius, dit-il. Il a essayé avec des tomates, des carottes, des piments, des fèves, des brocolis, entre autres. Cette découverte a lancé un nouveau type de culture, l'agrovoltaïque. On fait pousser des légumes sous les panneaux solaires, qu'on relève à 2 mètres pour pouvoir travailler. La productivité du potager est réduite de moins de 10% en raison des obstacles au travail du maraîcher, mais cette baisse de revenus est compensée par les revenus de l'énergie solaire. M. Baron Gafford a des projets d'agrovoltaïque un peu partout en Afrique, au Mexique et aux États-Unis. Comment les légumes peuvent-ils pousser sous l'ombre des panneaux? C'est à cause de cette question que nous avons dû attendre 5 ans pour avoir des subventions fédérales. Les fonctionnaires disaient « Les légumes, ça ne pousse pas à l'ombre ». C'est un grand malentendu. Les plantes n'utilisent qu'une petite fraction de la lumière qu'elles reçoivent. L'ombre des panneaux solaires n'est-elle pas nuisible à de plus hautes latitudes, par exemple au Québec, où on fait généralement en sorte que les potagers ne soient pas à l'ombre des arbres? Si on est suffisamment au nord, on peut faire des parcs de panneaux solaires en ligne pour minimiser l'ombre. On peut s'en servir comme clôture. Il y a de telles installations en Allemagne, même en Norvège. En savoir plus, 31 mégawatts, capacité des fermes agrovoltaïques en Chine. Source, China Daily. 2919 gigawatts, capacité de l'énergie solaire en Chine. Source, Reuters. C'était les îlots de chaleur de l'énergie solaire. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juillet 2024, dans la presse.